Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Le cœur du cœur de l'affaire, c'est-à-dire l'enceinte de béton qui recouvre le réacteur. Et tant qu'elle tient cette enceinte de béton, on est dans un accident nucléaire grave, puisqu'il y a eu des fuites radioactives, mais on n'est pas dans une catastrophe. La catastrophe, ça serait la fusion du réacteur et surtout la rupture de cette enveloppe qui enserre le réacteur.
Vous êtes, Éric Besson, un ardent défenseur du nucléaire. Est-ce que cette catastrophe ne remet pas en cause aujourd'hui quelques-unes de vos certitudes ?
Je suis un ardent, je vous laisse juger. En tout cas, je crois que le nucléaire civil apporte à notre pays.
Jusqu'ici, tout va bien.
C'est que le risque zéro en matière d'activité humaine et singulièrement en matière industrielle n'existe pas. Donc le risque zéro n'existe pas. En revanche, vous pouvez prendre toutes les précautions requises et convenons qu'à ce jour, en France, ça a été plutôt bien fait.
Par ailleurs, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment du réacteur numéro 4 après une explosion d'hydrogène. Un incendie qui aurait été maîtrisé. Mais ce qui est surprenant, c'est que jusqu'à hier soir, l'opérateur de la centrale annonçait que ce réacteur ne posait pas de problème. À Fukushima Daiichi, il y a 6 réacteurs. 3 étaient en maintenance au moment du séisme. Visiblement, au moins l'un d'entre eux avait encore besoin d'être refroidi.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Juan Lauvergeon, un mot du Japon. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste ?
Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça c'est la version positive, je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie lutte, c'est le changement climatique. C'est pas véritablement la lutte antinucléaire, c'est un peu rétro.
Vous nous dites, n'ayez pas peur ?
Attendez, bien sûr que non, n'ayez pas peur, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur.
Non, écoutez, soyons clairs. L'alerte n'était due, quoi que peuvent en dire certains, qu'à une panne de la hotte d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses.
Jusqu'ici, tout va bien.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu. Si vous nous rejoignez, il est l'heure du Canu Info de ce jeudi 19 mai 2016. Et en ce jeudi 19 mai 2016, nous reviendrons évidemment sur les mobilisations du jour. Et nous allons vous parler plein d'autres choses. Hein. Nous rigolerons un coup avec Laurent. On parlera du groupe Écolo, qui a eu des petits soucis. Il nous parlera de Bref de démocratie. Laurent, on reviendra sur les syndicats du luxe qui ont dit oui au travail le dimanche. On reparlera des fachos, nous parlerons des barbares, c'est-à-dire de la peine de mort. Nous partirons aux États-Unis d'Amérique où nous verrons la religion contre la contraception. J'espère avoir le temps de vous parler du livre de Florence Heyman, les déserteurs de Dieu. Et puis, nous aurons des petites brèves ou de longues informations sur l'environnement. Et au mieux de tout ça, nous causerons avec nos amis d'Acrimed 69, avec Pascal et Vincent. Bonsoir à vous deux. Nous reviendrons sur le traitement médiatique, par exemple sur la loi travail, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais tout de suite, donc il y a eu des manifs aujourd'hui.
Oui, t'avais prévu quelque chose.
Je sais pas si tu as marché.
J'ai marché
les rues.
Oui, alors j'ai marché un petit moment sous les averses lors de cette manifestation d'aujourd'hui à Lyon, effectivement, avec on va dire une mobilisation assez constante mais faible, hein, puisqu'on était aux alentours de 5000, je pense, 9000 selon la CGT et 2 selon la police.
À peu près, c'est ça. Ouais.
Et donc voilà, une manifestation qui était assez plan-plan au départ traditionnel, avec des slogans, tout ce qu'on peut imaginer dans une manifestation. Un gros cortège essentiellement de la CGT, il faut quand même le dire, avec un petit groupe devant aussi de jeunes et de moins jeunes plutôt revendicatifs. Tout ça bien encadré par les forces de répression, bien évidemment. Et c'est arrivé à Bellecour et jusqu'à je sais pas quelle heure ça s'est bien passé. Et puis après, a priori beaucoup moins. Et je dis a priori parce que moi j'étais parti entre temps. Je stagne pas trop sur la place Bellecour quand elle est entourée par les keufs. Moi je rentre un moment, je m'en vais. Et donc il y a eu des petites violences de part et d'autre et surtout de la part de la police. Du coup, c'est un peu inévitable. évitable sur les fins de manif qui s'éternisent, hein, puisque la police en a marre, comme ils sont sur les dents et qu'ils sont tendus et qu'ils attendent qu'une chose, c'est de se défouler. Du coup, c'est inévitable que ça parte. Bon, il y a eu aussi un moment, le canon à eau, mais personne n'a compris vraiment la raison.
Alors, la raison, elle a été donnée. Il paraît que c'était, alors donc c'est le canon à eau, se sont mis à fonctionner rue de la Barre, c'est-à-dire à côté de la place Bellecour. La raison qui a été donnée, c'est qu'il fallait ralentir le cortège parce que les dispositifs policiers n'étaient pas en place. C'est la raison qui a été donnée dans la presse lyonnaise.
C'est proche du ridicule.
Donc c'était un cas pratique, vous voyez, il n'était pas prêt.
C'est pour ça que quand on était à côté, on comprenait pas pourquoi le canon à eau était activé, parce qu'il y avait, pas d'agression, il y avait rien, mais effectivement, si c'est pour ralentir le cortège, c'est une nouvelle méthode de la police.
Ah, moi, tu sais, sinon, j'ai noté des chiffres, hein. Des fois, ça nous fait marrer, ces chiffres, mais écoute, là, on va les redonner. Donc, à Paris, il y aurait eu 14 000 personnes selon les chiffres officiels de la préfecture et 100 000 selon les syndicats. On est encore une fois dans les grands écarts, mais moi, le chiffre de la semaine qui m'a fait marrer au début,
oui.
C'est la manif contre la haine des flics. 1000 selon la police, 7 000 selon la police. Là, vous choisissez votre corps, si vous voulez. Bon, à Lyon, ils étaient tous d'accord, 500. Hein, là, ils s'étaient mis au point avant la manifestation pour donner un chiffre à peu près
cohérent. Disons que 500 avec une photo en numérique, on peut compter dessus. C'est difficile de contester après. Quand on est plus nombreux, on peut augmenter le chiffre ou le diminuer. Mais quand on n'est pas beaucoup, on n'a pas le choix. Hein.
Alors bon, au-delà de cette manifestation, il y a toujours des blocages routiers. Pas aussi importants que peut-être ceux et celles qui sont en train de faire ces blocages comptaient l'être. Mais un petit peu de partout, il y a eu soit des barrages filtrants, soit carrément des blocages, et en particulier devant des raffineries ou devant par exemple les grands centres postaux, devant aussi des centres de distribution de l'agroalimentaire. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Dans le Nord-Ouest, on parle d'une station-service totale sur 5 qui serait en rupture, à sec. Donc c'est parti très très vite. Hein. Alors, ça fait que quelques jours que ces blocages routiers se sont mis en route. Ça représenterait 70 stations totales environ, hein, qui seraient à sec, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc l'idée un petit peu, c'est continuer comme ça à toucher des centres économiques importants, hein. C'est le but de ces blocages routiers, ça l'a toujours été. C'est bien pour ça qu'ils sont toujours attendus et toujours espérés, mais maintenant il ne faut pas non plus taper trop sur ces routiers en disant ils ont démarré tard, ils commencent que maintenant. Il y a plein d'autres salariés, hein, qui ne font pas grève, qui ne sont pas dans la rue, on va plutôt s'en prendre à eux, qu'à ceux et celles qui finissent par s'y mettre. Puis ça se trouve, ils étaient déjà dans les manifestations, ils n'avaient juste pas sorti le camion. Donc voilà, il ne faut pas se tromper d'ennemis, je pense. Pour parler aussi des mobilisations, je voudrais quand même parler de ce qui s'est passé à Rennes ce matin. Ça touche 19 personnes. Il y a eu une intervention des forces de l'ordre entre 6h et 7h dans le métro de Rennes. Donc il y a 19 personnes qui ont été arrêtés. Alors, le procureur est très fier, la police est très fière, la justice est très fière. Ils ont été pris en flagrant délit de dégradation sur les bornes de validation des titres de transport. Attention, il y a du terrorisme. Pourtant, il faut pas en rire, parce que ils risquent gros, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et dégradation volontaire de biens destinés à l'utilité publique par des personnes agissant en réunion et le visage dissimulé, ce qui est aggravant. Voilà, donc c'est cher payé pour des bornes que nous sommes nombreux et nombreuses à détester. Il y a les mêmes à Lyon. Voilà, ça va être un des dossiers importants à suivre sur toute cette répression sur ces manifestations. Autre chose sur ces manifestations, Laurent ?
Non.
Alors, je vous propose qu'on continue un petit peu, hein, avec toi, Vincent, sur le traitement médiatique sur ces manifestations, sur la loi travail, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal à dire, et à Acrimed, on s'est quand même pas mal penché sur la question.
On s'est d'autant plus penché sur la question que finalement, la loi travail, on n'en parle pas tellement dans les médias en ce moment. Ce dont on parle le plus, et ce qui monopolise le plus l'attention des médias, c'est la violence. Alors, avec plein de guillemets et avec plein de sens différents entendus dans ce mot, mais on ne parle à peu près que de ça. Et donc dans le traitement médiatique du mouvement social et plus précisément de la violence avec toutes ces guillemets, on peut grosso modo, à grands traits, relever trois biais journalistiques qu'on retrouve à peu près tout le temps, à savoir la reprise des données de la préfecture en premier lieu, en deuxième lieu la silenciation, le non-traitement justement des violences policières, et enfin en dernier lieu le surtraitement des violences des manifestants et leur dénonciation évidemment. Alors du coup la reprise des données préfectorales, ça c'est un très grand classique. Ça concerne les chiffres de manifestants en premier lieu, mais pas exclusivement, ça concerne aussi, plus précisément, les violences. Et en effet, au soir de chaque manifestation, on a toujours une première version qui circule dans les grands médias, à savoir combien il y a eu de blessés, ça semble être un bon indicateur des violences, et donc on reprend les chiffres de la préfecture de police pour savoir combien il y a eu de blessés. Sauf que le problème, c'est que les préfectures de police, elles nous donnent le nombre de blessés du côté de la police, et évidemment pas du côté des manifestants, ce qui est beaucoup plus difficile à évaluer, qui prend un peu plus de temps, qui réclame un peu plus d'enquête.
Et qui demande un travail de journaliste que aucun finalement ne fait.
Et qui demande un travail de journaliste que souvent, finalement, c'est les militants qui font et qui tentent de coordonner un petit peu les informations qu'ils ont ici et là et de les mettre en commun. Un exemple parmi d'autres, il y a eu une grosse manif le 28 avril. Et donc le soir même, on a appris qu'un policier était gravement blessé par un tir de pavé. On a appris seulement le lendemain que lors de la même journée de mobilisation, un jeune homme étudiant avait perdu un œil par le fait d'un tir de flashball d'un policier, ce que la préfecture, évidemment, soit n'avait pas relevé, soit c'était bien gardé de mentionner dans ses communiqués que les journalistes se sont empressés de recopier dans les grands médias. Alors, il n'y a pas que le nombre qui compte, il y a aussi le côté plus qualitatif, et c'est vrai que les journalistes ont tendance à reprendre les explications préfectorales de l'emploi policier et de la force. En effet, la police serait très fatiguée puisqu'il y a quand même le contexte des attentats, il y a beaucoup de manifestations, ils sont donc surmobilisés, ils sont sous-effectifs, ils sont à cran, ils sont parfois même, nous dit le syndicat Alliance, lâchés par le pouvoir politique et ils sont confrontés à des individus déterminés qui les harcèlent et qui les malmènent dans les manifestations. Donc ça, c'est un discours qui est assez souvent repris dans les grands médias. On a plus rarement l'autre son de cloche, à savoir que les manifestants, eux aussi, sont harcelés par précisément les forces de la BAC ou encore les CRS.
Et les manifestants sont eux aussi fatigués, ils luttent au quotidien contre des milliers de choses et que finalement ils souffrent aussi largement autant, voire pire que n'importe quel fonctionnaire de police.
Mais ça, on l'entend un peu moins.
Ouais.
Mais heureusement, on a quand même pu entendre des voix un peu plus nuancées ces derniers temps après plus d'un mois de mouvement social, donc il y a des nuances qui commencent à apparaître, qui font un peu plus de place à des témoignages de manifestants et de manifestantes, et qui font un petit peu plus entendre leur version. Mais quoi qu'il en soit, cette concentration sur les violences a quand même tendance, globalement, à invisibiliser les raisons de fond de la mobilisation. Donc, en plus de ce biais préfectoral, on va dire, on remarque quand même très souvent un passage sous silence des violences policières. Alors, quand les violences policières sont évoquées, ce qui est assez rare, elles sont assez souvent évoquées finalement au conditionnel et sous la forme d'une question. Par exemple, toujours pour revenir sur la manif du 28 avril contre la loi travail, l'Express avait publié un article intitulé « Étudiants éborgnés à Rennes, c'est un tir de flashball, j'en suis convaincu », entre guillemets, donc donnant la parole à un manifestant. Et mentionnant donc en chapeau de l'article, en introduction de l'article, que le jeune homme, je cite, « pourrait avoir été touché par un tir de flashball ». Si on était suspicieux, on pourrait penser que le conditionnel est dû au fait que la préfecture de police n'a à ce moment pas encore confirmé l'information. Autre exemple assez important, on se souvient de ce jeune homme roué de coups par des flics devant son lycée, Henri Bergson, à Paris, dans le 19e arrondissement, le 24 mars. BFM TV s'est empressé de publier un bandeau pendant son journal télévisé, je cite « violence policière présumée sur un lycéen ». Donc ce conditionnel qui est assez omniprésent, parfois il tend même à remplacer carrément l'information sur les violences policières. Les violences policières sont résumées finalement parfois à une sorte de calomnie anti-flic, notamment dans le contexte des derniers jours, pendant lequel le syndicat Alliance donc de la police s'est organisé contre, je cite, la haine anti-flic. Or, on peut observer que les médias ont réservé un traitement quand même plutôt favorable à cette manifestation, et ils ont bien expliqué les raisons de la mobilisation des policiers ce jour-là, ils ont bien expliqué les motifs qui les menaient à la manifestation, et finalement, on peut se demander pourquoi, lorsque les cheminotes et les cheminots se mettent en grève, ils n'ont pas un traitement aussi équilibré, et déplorer le deux poids deux mesures. Donc, reprise de données préfectorales, invisibilisation des violences policières. Et il faut évoquer un dernier biais, je pense, qui est aussi très important, c'est l'injonction à dénoncer les violences faites contre la police, ou plus généralement la violence des manifestants. Ça devient un classique maintenant, l'injonction à dénoncer les casseurs. Tous les membres d'organisations politiques, les représentants syndicaux qui vont dans les médias en ce moment, sont appelés à prendre leurs responsabilités et à condamner publiquement les mauvais et les mauvaises manifestants et manifestantes qui pètent des vitrines de banque. Et donc, en fait, ce faisant, les journalistes trace une limite du politiquement pensable, du politiquement discible. Et pour prendre un exemple, mais parmi vraiment de nombreux autres, et pour rester sur l'exemple de la manif du 28 avril, on a demandé à Caroline De Haas, donc qui est une militante féministe, je cite la question qu'on lui pose, Bernard Cazeneuve dit ce soir, il serait quand même temps que les organisateurs, dont vous faites partie, condamnent beaucoup plus fermement ces violences-là. Est-ce que vous le faites ce soir ? Et un deuxième exemple pour montrer que ce n'est pas quelque chose d'isolé. Trois jours plus tard, sur BFM TV, une journaliste demande à Olivier Besancenot pas moins de 11 fois de suite, occupant 7 minutes d'antenne, et ce d'ailleurs sur un ton professoral, voire policier, s'il condamne les actions des casseurs. Donc ce que ça provoque finalement, dans le contexte actuel, c'est un débat très anémié, très mutilé, qui se résume à des injonctions à se positionner vis-à-vis de comment se passent les manifs. Toujours sur la dénonciation des violences, il y a un traitement très différencié par les journalistes entre tels et tels mouvements sociaux. Par exemple, lors des manifs des agriculteurs de la FNSEA qui cassent des péages autoroutiers, on a beaucoup moins d'injonctions à se désolidariser de ces formes d'action-là que lorsque ce sont des militants et des militantes qui explosent quelques guichets de banque. Et donc ce deux poids deux mesures, à nouveau, est assez omniprésent.
Ouais, ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, finalement, ce qui est assez courant, c'est que quand une manif est de droite ou d'extrême droite, comme celle des flics ou celle de la FNSEA, les médias sont effectivement sympathiques, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'ils prennent parti, ils se positionnent comme étant des médias de droite ou d'extrême droite, et que quand c'est des casseurs de gauche ou d'extrême gauche, là, par contre, ils accusent, et donc ils montrent bien qu'ils ont un parti pris et qu'ils sont pas du tout équilibrés. Alors moi, je défends pas le fait que les médias doivent être équilibrés. Je trouve ça complètement aberrant, parce que ça existe pas dans la vie. On est tous des êtres humains, on a tous un parti pris. Mais qu'ils l'assument. Hein, qu'ils se disent, oui, on est une radio de droite ou d'extrême droite, et donc on soutient la FNSEA et la Flicaille. Et Radio Canu, nous, on s'assume, et on est d'extrême gauche ou de gauche, et on soutient ceux qui sont de l'autre côté, qui sont en face de la police, ou en face de la FNSEA. Alors pas quand c'est l'État, bien évidemment, mais quand c'est la Confédération Paysanne, par exemple, ou autre.
Alors, je vais peut-être enchaîner là pour aller tout à fait dans le sens de ce qui a été dit et apporter une illustration un petit peu de la façon dont les choses peuvent se passer quand effectivement les médias s'imposent et imposent en tout cas un point de vue qui n'est pas énoncé comme tel. Alors donc, en reparlant un petit peu des manifestations des policiers, alors on l'a déjà évoqué, et alors donc on en a entendu parler partout, hein, ils souffrent, ils sont en malaise. Donc il y a à la fois les attentats, il y a l'état d'urgence, il y a le mouvement social. Donc ils sont à bout, ils sont à cran. Et donc dans ce contexte-là, donc ils annoncent une manifestation, en tout cas un ensemble de rassemblements qui ont lieu en France, là, donc à Paris, à Lyon. Et ils sont très très largement relayés, et donc j'ai simplement regardé sur internet ce que disaient les journaux par rapport à ça, et les unes, et je vous en citer une parce qu'elle est toute particulièrement illustrative, une si on peut dire, toute particulièrement illustrative du point de vue effectivement que tu décrivais tout à l'heure, Laurent. C'est le journal aujourd'hui, Le Parisien, qui dans la journée du 18, donc hier, puisqu'il y avait donc la mobilisation des policiers avait lieu le mercredi 18 mai, donc dans cette même journée, il se trouve que le matin, l'édition du journal publie un sondage qui a été fait par l'organisme de sondage Odoxa, avec lequel Le Parisien travaille régulièrement. Voilà, un sondage qui est supposé exprimer la perception que les Français se font de la police. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sondage a fait un buzz absolument formidable dans tous les médias. Je me suis amusé à écouter les revues de presse des radios le matin. Alors, ils annonçaient là, avec grande générosité, la manifestation des policiers. Voilà. Et ils disaient quels étaient leurs arguments. On recevait aussi souvent sur le plateau un porte-parole syndical où on demandait à un policier de venir témoigner, voilà, et il y avait ce sondage qui venait renforcer, comme ça, comme une sanction définitive et fatale, quel était le point de vue de la nation sur la situation des policiers aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que dit ce sondage? Évidemment, ça, c'est pas très étonnant. Il dit que les Français soutiennent, etc., sont particulièrement attentifs à la situation. Et donc, je vous le donne en mille, la une du Parisien, dans cette situation du mercredi matin, elle est la suivante. « Messi, les Français vous aiment ». Alors, c'est un écrit en gros caractères, avec une belle photo où on voit des CRS derrière des boucliers. Mais si les Français vous aident, la preuve par le sondage. Alors, quelques petites remarques sur ce genre de sondage, voilà, pour comprendre dans quelle mesure ça participe finalement du bourrage de crâne médiatique auquel on est exposé depuis un certain temps. Ce type de sondage, c'est fait par Odoxa, c'est des sondages qui sont faits à la va-vite. Ça se passe sur Internet, donc il suffit d'avoir un certain nombre de personnes qui vont répondre, 992, là ici en l'occurrence, qui sont soi-disant représentatives de la population française, auxquelles on va soumettre une petite dizaine de questions. Voilà, alors ils pratiquent comme ça maintenant les instituts de sondage, parce qu'en fait, quand ils téléphonent, les sondages qui passent par téléphone, aujourd'hui, quand ils téléphonent à 10 personnes, il y en a une qui accepte de répondre. Il y a un niveau de défiance très très important des gens à l'égard des sondages. Ils savent bien qu'ils se font avoir, que leur parole va être instrumentalisée. Et quand on passe par un sondage par Internet, ça permet de gagner du temps et d'éviter ça. Alors du coup, ça introduit par contre un certain nombre d'autres biais qui sont assez évidents. D'abord, il faut avoir Internet. Et d'une, tous les Français n'ont pas Internet. Deuxièmement, ça va survaloriser et surreprésenter ceux qui sont qui ont intérêt à avoir des choses à dire. Enfin, ça va puisque ça base simplement sur la base du volontariat. Les gens qui vont s'exprimer sont des gens particulièrement investis, particulièrement énervés, etc. Et donc, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime effectivement le point de vue des gens qui sont très 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 enragés par la situation qu'ils vivent, qu'ils ne supportent pas, etc. Un petit exemple d'une question qui est posée par ce sondage que je lis, qui permettra de voir comment les choses sont imposées, y compris dans la rédaction des questions. Avec l'état d'urgence qui dure depuis des mois, le mouvement Nuit Debout et les manifestations contre la loi El Khomri, de plus en plus de policiers disent ressentir du ras-le-bol et de la fatigue physique et morale. Vous, personnellement, les comprenez-vous ? Alors à cette question, 91% des personnes ont répondu oui, nous comprenons. Et c'est ce qui fait dire le matin même sur l'antenne de RTL, la journaliste, elle énonce les choses comme ça au début de journal. Elle dit 91% des Français comprennent et soutiennent la police. Ah oui,
ils y rajoutent le soutien du coup.
Voilà. Donc le fait de comprendre. Moi j'aurais répondu oui, je comprends qu'on peut dire ça, pourquoi pas, a priori, voilà. Peut-être qu'effectivement ils ne rentrent pas chez eux le soir, j'en sais rien, je n'ai pas de détails, bon, voilà. Alors ce sondage est assez emblématique de ce qui se fait à peu près de pire dans la presse française, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est repris, hein, bien sûr, ça fait le buzz, mais il est repris sans le moindre élément critique. Enfin, c'est, tout se passe comme si, ça passe comme une lettre à la poste et comme si ce sondage était l'expression d'une vérité incontournable. Alors, incontestable, pardon. Alors, les policiers ont réussi leur coup de com. Et donc, du coup, ben, maintenant, hein, s'ils craquent dans les manifestations, s'ils se mettent à matraquer des manifestants qui les harcèlent, etc., ben, on est presque prêt à les pardonner d'avance. Alors, deuxième chose que je voulais signaler, qui a été mentionnée sur le site d'Acrimed il y a quelques jours, une chose un petit peu étrange et rare, c'est qu'il y a quelques journalistes de Mediapart qui ont constitué un collectif dit de journalistes debout. Voilà. Alors, évidemment, qui fait référence au mouvement Nuit Debout. Alors, je cite dans leur manifeste la présentation qu'ils font de leur collectif. Ils disent vouloir défendre et promouvoir un journalisme responsable, honnête, libre, divers et de qualité. Combat qu'il serait bon d'affirmer en ces temps de politique de l'info low cost, de l'audience reine et du buzz. Voilà. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à faire une référence un peu intellectuelle, mais à ce que le sociologue Pierre Bourdieu avait dit en 98 à propos du mouvement des chômeurs. Alors, il y avait un mouvement qui s'était mis en place. Il y avait une occupation même de l'école normale supérieure à Paris. Et donc, Bourdieu s'était fendu d'un texte dans Le Monde qui était intitulé « Le mouvement des chômeurs, un miracle social ». Alors, miracle social, ça voulait dire quoi? Ce qu'il disait, c'était que la première victoire du mouvement des chômeurs, c'était le mouvement lui-même. C'est-à-dire le fait que les chômeurs osent s'exprimer et revendiquer quelque chose. Voilà. Alors, on pourrait dire, on peut faire une petite analogie avec ce que disent ces journalistes debout. C'est-à-dire qu'ils osent s'exprimer, ils osent dire des choses à l'égard de ce qui se passe dans leur salle de rédaction. Ils osent franchir une frontière que dans ce secteur, on a beaucoup de mal à franchir, puisque le monde du journalisme est un milieu extrêmement retors à la critique. D'abord aussi parce qu'il y a beaucoup de journalistes précaires, parce qu'il y a un gros conformisme, on peut dire idéologique et politique, qui est sans doute lié en partie au recrutement social des journalistes eux-mêmes. Voilà, on
aime formatage
pas...
des écoles.
Absolument, il y a ça aussi, même les écoles, alors je suis d'accord, les écoles sont pas le seul, le seul élément, c'est souvent évoqué, mais malgré tout, c'est pas le seul élément. Alors, quand il y a des journalistes qui critiquent le milieu de l'intérieur, on dit souvent qu'ils crachent dans la soupe et qu'ils ont qu'à faire un autre métier. Voilà. Alors évidemment, on peut être pas tout à fait quand même angélique, puisque il est cette goutte d'eau dans un océan tumultueux de conformisme, et ça va peut-être pas faire bouger tout à fait les choses. Cela étant, on ne peut être que intéressé, et c'est aussi pour ça qu'Acrimed l'a publié sur son site, à voir qu'enfin, peut-être dans un contexte, ben peut-être que le mouvement en général fait un petit peu réfléchir les gens dans leur métier, et peut-être que ça rappelle à des journalistes qu'ils pourraient avoir peut-être aujourd'hui un peu plus de prise sur leur profession s'ils se mettaient à devenir un peu plus courageux.
Eh ben merci.
Eh ben merci bien.
Merci Radio-Canada.
On verra si nous avons le temps de nous revoir avant la pause estivale. En tout cas, merci bien d'être venu. C'est toujours un grand, grand plaisir. Et on va laisser une petite jingle.
C'est bon, c'est prêt.
Ça requinque et ça remet.
Radio Canu, la radio qui requinque.
Ça remet.
Là-dedans, c'est dégueulasse et c'est trop bon.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Alors,
tu avais envie de nous parler de démocratie.
Oui, je vais faire
des
brèves de démocratie représentative, parce que on ne parle pas de démocratie directe, bien évidemment, on parle du système dans lequel on est. Alors, le petit mot du jour sur le groupe écolo dont tu disais tout à l'heure, c'est les 6 députés écologistes qui sont qualifiés de réformistes, que j'appellerais moi plutôt des traîtres à l'écologie politique, qui ont quitté le groupe en 2012, qui ont rejoint les socialos. Et c'est aujourd'hui, suite à ce départ-là, et à d'autres, et c'est notamment Bruno Leroux, le président du groupe du PS, et François de Rougy, ancien traître, lui un vrai traître, d'Europe Écologie Les Verts, qui donc a quitté le groupe récemment, François de Rugis, ainsi que d'autres, hein, Christophe Cavard, François-Michel Lambert, Véronique Massonneau, Paul Molac. Donc ces six-là qui viennent de trahir l'écologie politique en s'alliant avec le PS, ont fait tomber le groupe écolo à l'Assemblée nationale, puisque le groupe écolo n'est plus composé que de 9 membres, et il en faut 15 pour former un groupe. Donc le groupe écolo a disparu de l'Assemblée. Voilà, une petite brève. Deuxième petite brève de démocratie représentative. On va parler au Sénat, l'autre chambre, puisque les députés ont voté aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence de 2 mois. Bon, le prétexte fallacieux de protéger les imbéciles qui courent derrière un ballon et ceux qui se shootent pour pédaler le plus vite possible dans les montées. Alors que on imagine bien que sans l'état d'urgence, on est capable de protéger les mêmes fouteux débiles que ceux qui pédalent avec plein de médicaments. Mais ils ont décidé de le prolonger avec cette excuse-là. Ce qui est plus intéressant, c'est qui a voté et qui n'a pas voté. Donc 46 députés ont voté pour, une vingtaine ont voté contre. Et là, on se dit, putain, merde, il y a que 70 députés à l'Assemblée. Eh ben non, parce que ces élus qui nous font des leçons de morale, hein, qui disent c'est mal de taper la police, c'est mal de manifester, c'est mal de tout ça, sont des escrocs, des voleurs. Hein. Et un exemple simple, c'est qu'ils volent l'argent public, puisque sur les socialistes qui ont voté, il y en a 29. 5 étaient contre, 29 étaient pour. Et il y en avait 251 qui étaient absents. Et sur ces 251, aucun n'aura un retrait sur sa fiche de paye. Parce qu'on pourrait dire ils faisaient grève, peut-être. Mais eux, quand ils font grève, ils n'ont pas de retrait sur la fiche de paye. Les Républicains, c'est pareil. 12 présents pour, un contre, 182 absents. On peut y aller. L'UDI, 0 présent.
Félicitations.
0 présent. Donc voilà, c'est la démocratie représentative dans tout ce qu'elle a de pire. On donne des leçons, mais on s'absente de son travail. Et vous, si vous absentez de vos travaux, non seulement vous n'êtes pas payé, mais en plus vous avez des chances de vous faire virer. Voilà, ils ne donnent pas l'exemple, bien évidemment. Et puis un dernier truc ridicule de la démocratie représentative, qui part d'une bonne idée quand même. Ces 40 politiques et intellectuels, tout à l'heure, vers 17h, ils étaient 40, qui demandent au gouvernement de légiférer pour limiter les salaires des dirigeants d'entreprise, et ils demandent à limiter à 100 fois le SMIC. Ils veulent faire pression pour qu'il y ait une loi. 100 fois le SMIC, ça fait 1,75 million d'euros de salaire par an. Dans ses signataires, Claude Barthelone du PS, on notera Daniel Cohn-Bendit, ancien écolo, Didier Daninx, un écrivain, Cécile Duflo, une encore écolo, enfin des gens comme ça. Mais on se dit, mais ils sont complètement dingues, ils demandent 100 fois le SMIC, 1,75 million d'euros par mois. Mais moi je suis désolé, quand on est vraiment de gauche, on ne demande pas à ce que les patrons soient payés 100 fois plus que le travailleur de base. On fait un équilibre des salaires. Je veux bien qu'il y ait une petite différence, mais au-dessus de 2 ou 3 fois le salaire moyen et pas le SMIC, et c'est difficile de vivre avec le SMIC quand même, ça me paraît valider l'idée d'inégalité sociale, d'inégalité salariale, même si ça part soi-disant d'une bonne idée, 100 fois le SMIC, ça limiterait, parce que les gros patrons, ils sont payés bien plus que ça, c'est une fausse bonne idée pour moi. La vraie lutte, elle est quand on aura à peu près une égalité salariale, quel que soit le travail et le niveau de responsabilité que nous avons choisi ou pas, ou que la structure sociale nous impose d'avoir. Voilà donc ces petites brèves d'infos de démocratie représentative.
Alors c'est le genre de choses qui m'énervent, tout fout le camp camarade, moi je te le dis, après le BHV Marais et les jaunes qui ont signé un accord pour travailler le dimanche, voilà Tipa qu'il y a un autre secteur qui est en train de tomber, c'est le secteur du luxe. Hier, la Fédération Française de la Couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode a confirmé avoir trouvé un accord avec les représentants syndicaux pour ouvrir ses points de vente le dimanche et faire travailler ses salariés le dimanche dans les zones touristiques internationales, hein, ces fameuses ZTI de la loi Macron. Alors c'est un accord qui concerne les marques de luxe, hein, on parle de Chanel, de Dior, d'Hermès, de Lanvin, de Vuitton. Bon, globalement, toutes les marques qui dépendent de la convention collective de la couture. On parle d'une trentaine de marques concernées et puis un peu moins de 100 magasins. Alors l'accord, il a été signé par roulement de tambour, c'est pas très compliqué. La CGC, facile.
Ouais, normal.
La CFDT.
Ouais,
facile. LFO, qu'on connaît aussi, savoir basculer du côté du patronat assez facilement. Alors, il faut dire que ces trois syndicats cumulent un taux de représentativité supérieur à 50%, ce qui fait que personne ne va pouvoir contrer cet accord. Alors, l'accord prévoit du volontariat.
Oui,
on commence à rire.
On sait comment ça marche.
26 dimanches travaillés maximum dans l'année, une rémunération double et puis une participation aux frais de garde des enfants comme des parents dépendants. Alors, et oui, il faut bien faire garder les enfants pendant ce temps.
26 dimanches, c'est quand même la moitié de l'année.
Ah non, mais. Moi, je dis que c'est pas bien. Hein. Je le répète, c'est un accord tout pourri. Alors, pourquoi il est tout pourri ? Parce que ça va en aider d'autres de multinationales et de grands magasins. Puisque cet accord concerne évidemment les boutiques de ces marques, mais concerne aussi ce qu'on appelle les corners dans les grands magasins. Ce sont des boutiques installées, vous savez, souvent en rectangle dans ces grands magasins, et ce sont des personnels de ces marques qui travaillent dans ces corners, ce ne sont pas les personnels des grands magasins. Et ça arrange bien les affaires des Galeries Lafayette, hein, qui est en pleine négociation, puisque dans son magasin Boulevard Haussmann, hein, celui qu'on appelle le navire amiral, beaucoup de personnes travaillent dans ces corners de luxe, et donc ça va les désolidariser des négociations en cours aux Galeries Lafayette, c'est-à-dire que, eh ben, quoi qu'il se passe, hein, dans les accords avec les Galeries Lafayette, eux, au moins, ils sont protégés, ils pourront travailler le dimanche, hein. Oui, protégé, j'ai dit. C'est vachement bien tout ça. Ça fait que c'est un beau mélange, un beau mix. Ça va bien aider encore dans les relations de travail. Alors, les Galeries Lafayette étaient en train de relancer aujourd'hui les négociations avec les syndicats. Bon, après le BHV, moi je m'attends à tout, hein, le luxe, le jardinage, le bricolage, tout y passe.
Alors, deux petites infos maintenant, brèves, sur deux fachos. Le premier, c'est le Midi Libre qui donne l'info, qui parle de Jamel Boumaz. Jamel Boumaz, il a été élu conseiller municipal donc à Montpellier sous l'étiquette FN, et depuis il s'est barré du FN parce qu'il trouve que le FN est trop islamophobe, puisque lui c'est un musulman, de ce que j'ai compris, mais facho d'extrême droite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ce musulman d'extrême droite, enfin cet élu sous l'étiquette FN quand il s'est présenté, eh ben il a pas aimé que la mairie de Montpellier mette un drapeau, vous savez, arc-en-ciel, puisque c'est la semaine de la lutte contre l'homophobie, et que la mairie de Montpellier a voulu montrer sa solidarité avec les militants qui luttent contre l'homophobie. Et donc lui, qui est homophobe, a pas aimé ça, donc il est allé avec sa pelle et tout, il a essayé d'enlever le drapeau. Bon, il s'est fait arrêté par la flicaille et le drapeau a été remis, ce qui nous fait plaisir. Mais voilà, c'était juste pour dire que les militants d'extrême droite continuent leur petit travail de sape qui n'a pas marché ce coup-là, qu'ils soient encore au FN ou qu'ils se soient barrés du FN pour différentes raisons. Et on va rester avec le FN, avec l'info drôle quand même, moi je trouve, c'est parce que celle-là elle est sympa. On va parler de Marine Le Pen, donc la patronne du Front National, qui, lors de la perquisition du siège du Front National à Nanterre le 17 février, a fait une action qu'on qualifierait de drôle, mais qui est symbolique du comportement du FN, c'est-à-dire devant tout le monde, ils vont soutenir, parce que, alors, on rappelle quand même, hier à la manif de flics, à Paris, des militants du FN, des responsables du FN et des Républicains étaient présents, ils ont été acceptés, accueillis bras ouverts par les manifestants, qui rappellent que, là, effectivement, les flics aiment, les fachos aiment l'extrême droite, hein, parce qu'on n'a pas vu de flics dire, ah non, c'est pas bien, ils sont pas venus, malvenus, hein, ça s'est pas arrivé. Alors, elle fait des grandes leçons, elle est du côté de des flics, du côté de la police, sauf que quand ça la concerne, eh ben pas du tout. Puisque lors de cette perquisition, elle appréciait pas du tout la perquisition. C'est un dossier de soupçon de salaires illégaux versés à des assistants au Parlement de Strasbourg, hein, qui concerne le FN. Ils auraient triché, quoi, grosso modo. Volé de l'argent public, hein, pour le coup. Ça, si c'est confirmé, ça correspondra à ça. Elle a commencé à filmer la justice et les flics en train agir. Ils l'ont demandé de ranger le portable. Elle a pas voulu. Et puis au moment où ils sont dit, bah vous allez nous le donner, elle se l'a glissé dans le soutien-gorge et elle leur a dit, bah vous avez qu'à venir le chercher. Alors comme vous seriez vous militant militante, vous faites ça dans la rue, vous êtes militante, les flics ils se démerdent hein, pour vous l'enlever. Par contre vous êtes Marine Le Pen, vu que la police est quand même plutôt de votre côté, ils l'ont pas enlevé, mais c'est pour dire voilà, ils font des grandes leçons sur les flics et la justice, mais quand ça les concerne, eh ben ils obéissent pas non plus aux flics et ils respectent pas la justice et les lois, hein, puisqu'ils sont poursuivis dans une enquête voilà, avec de gros soupçons quand même sur la triche qu'aurait fait le Front National sur ses salaires.
Alors sans transition aucune, nous allons parler des barbares, de ces États qui assassinent. Alors pendant que l'Arabie Saoudite assassinait cette semaine son 93e condamné à mort par décapitation, il s'agissait d'un Pakistanais condamné à mort pour trafic de drogue, le nouveau président des Philippines, monsieur Duterte, a tout plein d'idées. Rodrigo, il a tout plein d'idées. Il a fait une campagne populiste, hein, peut-être que vous l'avez un petit peu suivi. Et pendant sa campagne, il avait promis d'éliminer des dizaines de milliers de criminels. Il avait même expliqué que les cadavres iraient engraisser les poissons de la baie de Manille.
Il a même dit qu'il en avait déjà tué, que voilà, il faut pratiquer l'assassinat contre les méchants criminels.
Et ben, à peine élu, Rodrigo s'est engagé à rétablir la peine de mort par pendaison dans les affaires de trafic de drogue, de viol, de meurtre et de vol. Je rappellerai juste que la peine de mort a été abolie en 2006 aux Philippines. Hein, donc,
ça n'aura pas tenu longtemps.
Hein. Non, voilà. Alors, il a expliqué aussi, Rodrigo, qu'il préférait la pendaison au peloton d'exécution. Ah bon, faut pas gâcher les balles. Hein, et puis, c'est plus humain.
Oh putain. Ben.
Voilà, et il a dit aussi que ceux et celles qui seraient condamnés deux fois pour deux crimes, ben, ils seraient pendus deux fois. Ah, mais il a tout plein d'idées.
Comment
hein.
il les tue une fois, puis après il les
ressuscite. L'idée, en fait, son idée, c'est que la tête se détache du corps. C'est ça, son idée. Ah non, mais on y va. Alors ça, c'était lundi. Hein. Lundi, il a annoncé tout plein d'idées. Il a annoncé aussi qu'il allait autoriser les forces de l'ordre à tirer pour tuer lors d'opérations contre le crime organisé. Voilà, donc lundi, il a donc présenté son programme contre la criminalité. Il a aussi annoncé son intention d'interdire la consommation d'alcool dans les lieux publics après 2h du matin. Et il va interdire aux enfants de sortir seuls dans les rues le soir. Vous allez me dire, bon, ok. Sauf que, si jamais il y a des enfants le soir, les parents seront emprisonnés pour abandon. C'est son idée. Voilà, donc ça c'était pour la mauvaise nouvelle. Et puis une meilleure nouvelle, c'est Pfizer, hein, la multinationale pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, a annoncé, c'était vendredi dernier dans un communiqué, qu'elle allait renforcer les dispositions en place pour éviter l'utilisation de ces produits lors des exécutions aux États-Unis d'Amérique. L'idée de Pfizer, c'est d'aller plus loin dans sa démarche d'interdire, de dire on ne veut pas que ça serve à ça. C'est de mettre en place un protocole pour s'assurer que les acheteurs respectent la charte de Pfizer, c'est-à-dire de s'engager à pas de vendre les produits pour des injections létales pour la peine capitale. Pfizer s'est engagé à sanctionner ou à poursuivre les distributeurs qui revendraient ces produits pour des exécutions. Voilà, donc ça concerne 7 produits. Aujourd'hui, on a à peu près 25 entreprises pharmaceutiques qui ont pris des mesures similaires, en particulier en Europe. Il faut savoir que ça a créé une grande pénurie hein, dans les 31 États des États-Unis d'Amérique où la peine de mort est encore en vigueur. On vous rappelle que ça a provoqué quand même beaucoup de scandales hein, aux États-Unis d'Amérique, les dernières exécutions avec ces produits. Parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a eu des souffrances, des agonies pour un certain nombre de condamnés à mort. Il faut savoir qu'il y a des États qui essayent de contourner les lois en place en essayant de dire à des pharmacies, vous allez nous approvisionner et on va cacher le fait que vous nous approvisionnez. Hein, déjà, tout ça, c'est vachement clair. On parle quand même de peine de mort, assassinat. Ou alors il y a des États qui seraient tentés a priori de s'approvisionner à l'étranger dans des conditions pas très claires non plus. Il y a même un État, l'État de Virginie, qui a tenté de rétablir la chaise électrique, hein, parce que autant y aller. Alors le point positif, c'est qu'avec tout ça, ben il faut dire quand même que les mises à mort sont en chute. Ça ne veut pas dire que les condamnations sont en chute, mais ça veut dire que les mises à mort sont freinées. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que des gens ne sont pas assassinés, sont en tout cas moins assassinés.
Alors on va rester aux États-Unis d'Amérique, on va revenir sur une affaire dont on a déjà évoqué des petites choses quelques fois, sur les problèmes de clause de conscience. La clause de conscience c'est apparaît dans les pays, dans les États où la religion reprend de la place au niveau législatif et au niveau étatique. Hein, c'est ce qui est en train d'arriver dans beaucoup de pays du monde où la religion avait été mise de côté depuis les années 70, on va dire. Ce qui est en train d'arriver en France petit à petit aussi, hein, notamment parce que l'extrême droite, la droite, la gauche et une partie de l'extrême gauche poussent à faire remonter l'aspect religieux dans la vie de tous les jours. Et les conséquences, on les voit très bien, notamment aux États-Unis d'Amérique, avec ces fameuses clauses de conscience. Et il y a une affaire qui a été jugée. L'affaire Zubik contre Burwell, dont on va parler tout de suite. Alors, c'est quoi cette affaire? Alors, l'origine, c'est le Obamacare. Vous savez, cette loi sur l'assurance maladie qui oblige les employeurs à rembourser, enfin, à faire choisir une mutuelle qui rembourse les frais de santé de leurs employés. Et dans les frais de santé, il y a un truc qui horrifie certains religieux, c'est la contraception. Je vous parle pas de l'avortement, c'est une même question pour là, c'est carrément exclu. Mais la contraception. Alors, l'administration Obama, hein, qui répond à cette idée, parce qu'il y a une loi aussi américaine qui parle de ça, ça s'appelle le Religious Freedom Restoration Act, qui autorise les gens, pour des raisons religieuses, à refuser de faire des choses, ces fameux clauses de conscience en français dans le texte. Et donc, il a autorisé des exceptions pour les organisations de santé qui seraient religieuses à but non lucratif, elles ont le droit de pas prendre en charge les pilules contraceptives. C'est leur clause de conscience. La clause de conscience, ça arrive, hein, il y a des médecins qui refusent de soigner les homosexuels parce que leur religion leur dit que l'homosexualité c'est mal. Il y en a qui refusent de soigner les femmes parce que les femmes c'est des êtres inférieurs. Il y a tout ce qu'on connaît qui se met en place petit à petit dans les systèmes politiques où la religion est réentrée très fort dans le système législatif. Alors, il y a cette action aux États-Unis, puisque alors c'est allé très loin, puisque des employeurs et notamment des mutuelles là, ont trouvé que ça allait pas, parce que c'était encore trop gentil, parce que ils expliquent rien que le fait de notifier à certains salariés qu'ils doivent pas que leurs moyens de contraception ne sont pas remboursés, rien que déjà de faire cette note là en leur disant on rembourse pas, ça enfreint leur religion. Donc eux, ils sont allés devant la justice en disant non, c'est encore pas assez les droits, nos droits de clause de conscience. Donc cette action qui est résumée par cette affaire, hein, Zubik contre Burwell, avec des gens qui s'opposent de l'autre côté et l'État, devait être jugée lundi par la cour la plus haute aux États-Unis pour décider s'ils avaient le droit ou pas. Et là badaboum, pas de réponse réelle, et c'est la première fois que ça arrive. Pas de réponse réelle, parce que cette cour américaine, elle est coincée. Vous savez, elle contient normalement 9 juges, mais il y en a un qui est mort. Et donc actuellement, il y a 8 juges. Il y en a 4 plutôt classés à l'extrême droite, hein, les conservateurs religieux, et 4 qui sont plutôt progressistes. Et quand on leur pose la question, ils répondent non, on peut pas répondre, parce qu'on n'arrive pas à tirer une majorité. Donc cette Cour suprême américaine, elle dit il faut que ce soit les juridictions inférieures qui cherchent un compromis. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, malheureusement, lundi, on n'a pas eu de réponse. On avait quand même grand espoir que il y a au moins un des quatre juges classés conservateurs qui soit pas trop un intégriste religieux. Eh ben non, ça c'est sûr. Aux États-Unis, dans cette cour, il y a vraiment quatre militants d'extrême droite religieuse dans la Cour suprême et quatre progressistes, puisqu'ils sont arrivés à ne pas trouver de majorité. Voilà, c'est quand même triste et c'est ce qui guette beaucoup de pays. On a vu les régressions en Pologne. Voilà, ça arrive un peu partout, ces clauses de conscience, notamment liées à la religion.
Alors, on va continuer avec la religion. Je vais vous parler du livre de Florence Heyman. C'est aux éditions Grasset, Les déserteurs de Dieu, sous-titré Ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto.
Excusez-moi. Alors, les ultra-orthodoxes, ça veut dire que ça se passe chez la communauté juive.
En Israël.
Et en Israël.
Alors, Florence Heyman, elle est anthropologue, elle pratique la méthode participative. Vous savez que sinon, on peut être sur de l'observation extérieure. Non, elle met les deux mains dedans et elle nous propose un ouvrage extrêmement vulgarisé. Très intéressant à lire, très agréable à lire. Il faut savoir qu'elle a vécu en France jusqu'à 30 ans et puis elle est partie vivre en Israël et elle s'est rendue compte que ses deux fils étaient sortis de la réponse, c'est-à-dire étaient sortis de la religion pour entrer dans la question, c'est-à-dire entrer dans la laïcité. Ces deux fils sont très différents, ils l'ont vécu d'une manière très différente. L'un est dans le milieu du spectacle et de l'art, l'autre est dans le milieu de l'entreprise et de l'industrie plus classique. Pour celui dans l'art et le spectacle, ça a été plus facile, plus aisé. Pour l'autre, ça a été un petit peu plus difficile au milieu social. Et à partir de ça, elle s'est aussi intéressée aux juifs ultra-orthodoxes. Ses fils ne sont pas ultra-orthodoxes. Hein. Excusez-moi, j'ai un petit chat coincé dans le gosier. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une constante augmentation du nombre de personnes qui sortaient des groupes juifs ultra-orthodoxes. Alors c'est un monde qui n'est pas du tout uniforme. Florence Heyman, elle nous le rappelle, mais elle nous rappelle aussi que c'est un ghetto. Elle parle de secte, et donc c'est très difficile de sortir. Et alors de cette emprise, elle s'est installée au sein d'une association israélienne, Hillel, dont l'objectif est de resociabiliser, d'aider ces hommes et ces femmes qui ont déjà quitté leur milieu pour rentrer dans le monde laïque. L'association ne les aide pas hein, à quitter la religion, c'est pas du tout le but de cette association. Le but de cette association, c'est de les accompagner une fois qu'ils ont fait cette démarche de devenir laïque.
À se réinsérer dans la société quelque part.
Voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est de trouver une formation, de faire des études, de trouver un travail, un logement. Alors il faut savoir que, je vous parlais tout à l'heure de ghetto et de secte, beaucoup de ces jeunes, puisque là, Hillel travaille beaucoup avec des jeunes, n'ont pas une éducation autre que religieuse. Ils ont beaucoup été dans les yeshivas, les garçons ont cette éducation. Ils n'ont pas d'éducation laïque, donc...
Ils n'ont même presque pas d'éducation. Question du cours, du tout. Ils connaissent pas la science, ils connaissent pas la vie de tous les jours, ils connaissent pas, ils leur manque.
Ils parlent pas l'hébreu.
Voilà, ils parlent même pas l'hébreu. Enfin, ils sont vraiment perdus dans la vraie vie. C'est un peu l'équivalent des mormons aux États-Unis, un peu.
Ouais, alors là, la difficulté, c'est même se servir simplement d'une carte bancaire. Alors, ils ont une ouverture quand même sur le monde, et c'est aussi ça qui les amène aujourd'hui, certains et certaines, à faire le pas. C'est que, ben, il y a la technologie, il y a Internet, il y a les smartphones, et tout ça, ça beau aujourd'hui. Il y a beau y avoir aujourd'hui un processus de vouloir bloquer pour qu'ils rentrent dans la religion ces smartphones. Hein, on pourrait pas aller sur tel ou tel site, avoir telle information. Finalement, les jeunes arrivent très très bien à se servir de ces outils, tout à fait comme nous. Donc, cette association va les aider. C'est ce que nous raconte Florence Heyman. Elle nous raconte ses parcours de vie de gens, d'un seul coup, des filles qu'elle voit arriver en short très très court, alors que il y a encore peu, c'était des jeunes filles avec des jupes longues, des manches longues.
Les collants.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un apprentissage de la liberté dont nous parle Florence Heyman dans cet ouvrage. Il faut savoir que pour beaucoup, c'est pas forcément quitter la religion, hein, c'est rentrer vraiment dans la vie laïque, ce qui est très différent, surtout en Israël. Chez nous, on a des débats, des discussions sur la laïcité, ça a tout son sens en Israël. Parfois, certains continuent à croire en Dieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient plein de codes et que, par exemple, il y a des témoignages où quelqu'un va fumer pendant le Shabbat et s'attend donc à ce que le ciel lui tombe sur la gueule. Littéralement, la personne l'attend, c'est ce qu'elle raconte. Oui.
Et ça n'arrive pas.
Ça n'arrive pas.
Donc, il se rend compte qu'on lui a raconté des conneries.
Ce sont des petites choses comme ça qui l'amènent à remettre en cause évidemment sa foi, sa croyance, mais surtout aussi l'éducation que les personnes ont pu recevoir. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ce qui est intéressant dans cet ouvrage de Florence Heymann. Moi, je vous invite donc à lire, c'est chez Grasset. Elle nous raconte aussi des témoignages que beaucoup partent à l'armée, parce que c'est un moyen aussi de trouver une insertion dans la société. L'armée a mis en place des bourses pour pouvoir les aider, parce que ben, ces jeunes arrivent, n'ont rien du tout, hein, parfois juste leurs fringues. Il y a aussi ben, une séparation, une distance avec la famille qui se met. Parfois, les liens peuvent se recréer. Voilà. Et puis, elle nous donne vraiment une image très vaste, très colorée de cette de ce groupe ultra-orthodoxe en Israël, qui prend des formes et des pratiques assez différentes finalement, et c'est un ouvrage très intéressant. Donc Les déserteurs de Dieu de Florence Heymann, c'est chez Grasset. Et tu voulais nous parler un petit peu d'environnement ou...
Oui, oh,
allez, deux mots, vas-y.
J'ai trois petites infos sur l'environnement. La première, c'est le projet de laboratoire au départ d'entreposage des déchets nucléaires de Bure, qui se transforme en CIGEO et qui est plus du tout un laboratoire, mais qui est un centre tout court d'entreposage des déchets radioactifs. Alors, ils ont essayé de le faire passer plusieurs fois au niveau du Parlement et du Sénat, à travers c'était planqué dans un truc de la loi de transition énergétique. Après, il l'avait remis dans le projet de loi Macron. Et là, ça revient dans un débat au Sénat, porté toujours par ces deux militants de la radioactivité de droite que sont Gérard Longuet et Christian Namy, qui sont deux députés de la Meuse, et le projet CIGEO est à Bure, et Bure est dans la Meuse. Ils sont là pour défendre ce projet d'entreposage des déchets nucléaires, chantier mis en œuvre par l'ANDRA, mais qui est toujours en attente d'une décision législative. Donc là, ils ont fait une réunion, ils étaient une cinquantaine de sénateurs, c'était juste après les questions au gouvernement, et aussi bien Gérard Longuet que Christian Namy, ils sont allés de leur démonstration en expliquant pourquoi il fallait inscrire ça dans la loi, pourquoi ce projet, donc officiellement c'est une installation de stockage réversible en couche géologique profonde. Alors réversible, ça veut dire que, contrairement à ce qui est au projet finlandais, à la fin on ferme pas, parce que nous on sait déjà que c'est dans une couche d'argilite, très exactement, qui n'est pas totalement étanche, du coup il faut qu'on puisse quand même les sortir en cas de problème. C'est 500 mètres sous terre a priori. Alors, ils ont beaucoup discuté sur la notion de réversibilité pour ressortir les déchets ou pas, etc. Son camarade Namy, lui, il a plutôt défendu l'aspect social, parce que ça crée des emplois. Alors en fait, c'est un projet qui s'étale sur 100 000 ans, hein, vous imaginez, 100 000 ans. C'est un truc de fou. Et c'est prévu pour que ça crée 200 emplois et 40% localement. Bon, ça fait quand même pas beaucoup pour 100 000 années de radioactivité présente à cet endroit-là. En tout cas, ils sont réunis, ils ont décidé, ils ont voté. 344 voix pour et 10 voix contre. Donc le Sénat est pour faire passer ce projet de CIGEO Bure, donc de centre d'entreposage des déchets radioactifs, réversible normalement. Et donc maintenant, ils demandent que ça soit mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Voilà, donc le Sénat est pour les déchets radioactifs dans cet endroit-là, endroit qui serait non fiable, d'après tous les experts interrogés. Alors toujours sur l'environnement, le Portugal a battu son propre record, puisque du 7 mai 6h45 du matin au 11 mai 17h45, plus de 4 jours, la consommation électrique du Portugal a été entièrement couverte par les énergies renouvelables, 100% renouvelables. Moi je dis bravo, big up, ça démontre que c'est totalement possible. Ils ont fait un gros effort ces dernières années. Alors ils ont eu un avantage, c'est que le temps était pourri, parce qu'il faut dire que le Portugal a beaucoup investi dans les éoliennes et très peu sur le solaire. Du coup, quand le temps est mauvais, il y a plus de vent, et donc ils ont beaucoup d'énergie fournie. L'année dernière, ils ont eu du mal, grosso modo sur toute l'année, ils ont eu 40% d'énergie électrique fournie par le renouvelable, seulement 40%, seulement 50%, je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait fait trop beau, et qu'ils n'ont pas installé beaucoup de solaire. Donc là, il leur reste cette dernière marche à faire pour arriver à être 100% autonome, ce qui est leur but. On rappelle que en Allemagne, il y a pas longtemps, c'est la semaine dernière, à un moment, ils sont arrivés à 100% de consommation électrique fournie par du renouvelable, ça a duré quelques heures. Le Danemark a battu son propre record aussi à un moment, 140% des besoins en électricité, donc ils produisaient trop, ils stockaient. Voilà, donc énormément de progrès dans plein de pays, et la France est toujours à peu près à 17-19%, essentiellement par l'hydraulique. Donc voilà, on est très très en retard. Et pour preuve qu'on est en retard, même Challenge, c'est une revue de droite libérale.
Libéral, c'est pas une revue de droite, c'est une
C'est de droite le libéralisme.
Oui, bien sûr, mais c'est plutôt du libéralisme. Hein,
ouais, c'est purement libéral.
C'est un journal qui déteste M. Sarkozy, mais qui aime d'autres gens de droite.
Macron. Alors, donc ils ont fait leur propre calcul sur le coût du nucléaire par rapport aux autres énergies. Donc ils sont repartis. Le coût du nucléaire, ils le connaissent. Hein, c'est 62 euros du mégawattheure. Hein, c'est le dernier rapport de la Cour des comptes qui le donne. Et eux, ils font tout un article en disant, Greenpeace s'est trompé dans son rapport. Parce que Greenpeace avait annoncé que les renouvelables seraient au même prix que le nucléaire entre 2020 et 2030. Eux, ils disent, ils sont trompés. Ça va arriver bien avant. Puisque dès 2020, ça va être généralisé, que le nucléaire sera plus cher. Et ils expliquent comment. Parce qu'on a déjà dans plein de pays l'équivalence du prix du nucléaire sur du renouvelable. Donc voilà, si même les libéraux commencent à dire ça, les sénateurs qui votent l'inverse ont l'air cons quand même. Il reste quelques minutes, tu veux ?
Eh ben non, on va vous laisser là pour ce soir. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine. On vous laisse pour la suite avec Papillon.
Oui, tout à fait.
Donc
qui devrait arriver.
Diffusé assez sous peu, hein, ouais. On peut dire ça, sous peu, ça va venir. Et puis, ben voilà, on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite des luttes, des grèves, des mobilisations, ce que vous voulez.
Ouais, on n'a pas d'agenda, je laisse le temps que ça se branche. J'ai pas d'agenda militant non plus.
Samedi, c'est la journée mondiale contre Monsanto et les multinationales de l'agro-business. Il y a des rassemblements, des manifestations et des actions un petit peu partout en France, et j'ai pas mon papier sous les yeux, donc je peux pas vous donner plus d'infos, mais voilà, allez chercher, c'est une journée internationale, donc ce sera normalement une belle journée.
Voilà, le prochain Canu Info, c'est demain à 19h, toujours sur l'antenne de Radio Canu, c'est presque prêt, là. Papillon va presque sortir ses ailes et s'envoler, mais non, des fois, c'est la connexion informatique qui pose problème, donc voilà, je vous laisse en compagnie quand même des bandes continues, si jamais ça prend un peu de temps, je vais plus avoir d'idées, plus avoir de quoi dire.
Allez, ciao, bonne soirée à tous et toutes.